font réagir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PM au réseau Cogeco.
Alors, l'essence, présentement, là, je regarde les tout derniers chiffres, là, c'est autour de quoi? Une pièce et 42 le litre. Hein, dans la grande région de Montréal, là, je regarde ça, là, Laval, 1,42 sur des Laurentides, 1,42 au coin de Saint-Laurent-Joliette à Longueuil. Je regarde maintenant dans le 450 Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, là, c'est 1,25. C'est pas trop monté là, récemment. Mais je vais vous dire, là, c'est en train de prendre une courbe ascendante, hein, les prix de l'essence, vous l'avez remarqué. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que ça prenne cette courbe-là, alors que le baril du pétrole, là, il se détaille à autour de quoi? 70 $ présentement, là. Et là, Jean-Philippe Descaries, ce matin, dans la presse, dit « Préparez-vous, les amis, parce qu'on va payer bientôt 2 $ le litre d'essence. » Il laisse pas mal entendre que ça pourrait nous arriver même d'ici l'été. Jean-Philippe Descaries, bonjour. Expliquez-nous votre logique, mon cher Descaries.
Ben, ma logique, c'est une logique que j'essaie d'appliquer à un marché qui semble justement sans logique ou un peu irrationnel par les temps qui courent, parce que, comme vous le soulignez, les prix là, atteignent là, des niveaux quand même surprenants. Moi, je me suis promené aujourd'hui, c'était 1,42,9, bon, disons 1,43, alors qu'il n'y a aucun mouvement de prix d'acquisition. Là, quand on achète le pétrole, c'est pas ça qui joue sur les prix qui sont à la pompe, alors que historiquement, ça a toujours été le cas. Et là où je dis que c'est pas farfelu de penser qu'on pourrait bientôt se retrouver avec un prix de 2 $ à la pompe, c'est que moi, je fais la correspondance à lorsque les prix du pétrole ont atteint leur niveau record. Le plus haut niveau jamais atteint, c'était en juin 2008. Le baril avait atteint 148 $ américains. Mm. Et à ce moment-là, on payait, nous, le litre d'essence, 1,48 $ à la pompe. Et on capotait. À cette époque-là, c'était effrayant de payer ce prix-là. Et ça a été le prix sommet atteint dans cette période d'explosion des prix du brut. Et on sait que c'est arrivé par la suite, c'était la récession de 2008. Le prix est passé de 148 à 40 $ en l'espace de 6 mois. On payait 1,48 $ durant l'été. Au mois de décembre, on payait 73 cents le litre parce qu'on était rendu à 40 $. Donc, il y avait une espèce de logique de concordance de prix avec le prix du coût de la matière première. Tandis que là, comme vous l'avez souligné, les prix du pétrole brut s'échangent entre 68 $ pour le pétrole américain et 73 $ pour le Brent de la mer du Nord. C'est des prix relativement stables et normaux, mais pourtant, on a un prix de 1,43 $ à la pompe qui ne s'explique pas par le coût d'acquisition de la matière première. Historiquement, les pétrolières étaient intégrées, elles faisaient des profits sur l'extraction, sur la production de pétrole, sur le raffinage et sur le détail. Là, on assiste à un mouvement un peu différent parce que beaucoup de pétrolières se délestent de leurs activités de détail. On a juste à penser à ce que Couche-Tard fait au Canada, aux États-Unis et même en Europe, en Norvège et partout. Ils achètent des stations-service que les opérateurs pétroliers ne veulent plus prendre parce que leur marge n'était pas assez importante. On parlait d'une marge de 6 cents le litre à l'époque quand les pétrolières étaient opérateurs de stations d'essence. Et ils ont perdu cette marge-là, mais j'ai l'impression qu'ils se repayent, moi, sur les marges de raffinage. Ils ont ajouté à leur marge de raffinage la marge qui se faisait au détail à l'époque. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des marges de 20, 25, 30 cents le litre au raffinage. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, c'était 10 cents le litre.
Mais Jean-Philippe, je veux juste bien comprendre, là. Dans le fond, ce que vous dites en 2008, le baril de pétrole se vendait 148, mettons, arrondissons, 150 $.
Exact.
OK, le baril, puis on payait 1,48 $ le litre.
Exact.
Vous dites, si on paye actuellement 70 $ le baril, donc deux fois moins qu'il y a 10 ans, et qu'on paye déjà 1,43 $ le litre, si on monte à 100 $ le baril, comme certains le prédisent, dans les prochains mois, par une simple règle de 3, vous dites, si ça monte à 100 $ le baril, on va payer 2 $ le litre.
Oui, tout à fait. Et c'est ce mouvement-là, on le voit depuis que le prix du baril a franchi la marque des 60 $ US. Il y a un mois, deux mois, on voyait les prix fluctuer. Ça pouvait être 1,10 $, 1,15 $, 1,07 $. On restait toujours à cette fourchette-là. Mais une fois que on a franchi la barre comme le seuil psychologique de 60 $. Là, on dirait que les pétrolières ou ben, les détaillants ou en tout cas ceux qui fixent le prix du marché se disent ben là ça, les prix il va y avoir un effet de rareté, donc les prix augmentent, mais on les augmente de façon démesurée. Et si on continue à ce rythme-là, à chaque fois qu'il y a une hausse le moindrement, hier tu vois ça, le pétrole le baril s'est apprécié de 3%, puis tout de suite bang, une hausse à la pompe là de quelque chose comme 15 cents le litre, ça n'a pas rapport avec la hausse qu'on a, que le prix de la matière première a connue. Là.
Jean-Philippe Descaries, dans votre texte dans la presse de ce matin, puis je l'ai vraiment souligné en gros, vous avez écrit « Dans le contexte actuel de fixation des prix à la pompe ».
Oui.
Et là, je me suis dit, est-ce que Jean-Philippe Descaries a utilisé ce mot-là avec, mettons, tout le sens qu'on peut lui donner?
Non, c'était très bénin. Là, je disais
c'était juste bénin, hein?
Oui. Non, mais il y a un sous-entendu. Bon,
il y a un petit sous-entendu.
Il y a un petit sous-entendu parce que la fixation, c'est sûr, les prix sont fixés puis sont revus quotidiennement, mais c'est qu'il n'y a plus de logique là-dedans. Et à ce moment-là, il y a une espèce de libre-arbitre qui est juste basé sur la peur que les prix vont aller encore en augmentant. Et c'est pour ça que je dis, à ce rythme-là, si le baril, effectivement, et il semble qu'il se dirige tranquillement vers les 80 $ américains et éventuellement les 100 $ américains, parce que les pays producteurs ont vraiment réduit leur capacité de production là, depuis janvier 2017. Ça fait déjà un an et demi qu'ils appliquent cette politique-là et ça commence à faire effet. Lorsqu'ils ont commencé ça, les réserves de pétrole dans les pays développés, les pays industrialisés, étaient de 340 millions de barils supérieurs à la moyenne des 5 dernières années. Aujourd'hui, on est rendu à 43 millions seulement de réserves de pétrole dans les pays industrialisés. Donc, il y a un effet de rareté qui se crée et c'est pour ça que les prix augmentent. Ce n'est pas le pétrole de schiste aux États-Unis qui peut combler tous les besoins, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, on ne produit que pour la consommation intérieure. On n'exporte pas encore de pétrole d'une façon marquée comme l'Arabie saoudite.
Il y en a un petit peu quand même qui nous arrive sur notre marché.
Oui, hein? Effectivement. Ben, oui. Ça a été le cas, c'est la tragédie de la Mégantic. Voilà. C'était du pétrole qui venait
du Dakota.
Pétrole,
hein?
Du Dakota, du pétrole de schiste du Dakota, effectivement.
Là, bon, vous avez raison de dire l'Arabie saoudite et puis d'autres pays actuellement se concertent pour faire monter le baril, le prix du baril de pétrole. Mais par le passé, mon cher Descaries, quand on faisait une entrevue avec l'industrie, il défendait tout le temps la hausse des prix à la pompe en disant « Ah, ben là, le cours a augmenté, le cours du baril qui est transigé sur les marchés boursiers a augmenté. » Sauf que là, l'augmentation du cours...
Elle n'est pas là.
Alors, dites-moi...
Qu'est-ce qui justifie la hausse?
Ben, puis comment eux autres, ils la justifient, la hausse?
Ben là, moi, l'argument que j'entends là, de plus en plus, qui est répété, c'est toujours... Il y a un problème, effectivement, de raffinage. Il y a beaucoup moins de raffineries. Montréal est l'exemple le plus patent. Là, il nous reste une raffinerie à Montréal. On en avait 5 dans les années 80. Il y a vraiment une réduction des capacités de raffinage. Donc, ça fait un impact sur les prix. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'on est en période où on est en train de revoir nos opérations parce qu'on passe de l'essence d'hiver à l'essence d'été. Donc, il faut ajuster un peu les machines de raffinage. Donc, on dit qu'il y a une baisse de la production, ce qui fait augmenter les prix. Ça, on nous sert ça là, depuis 2 semaines, 3 semaines, mais ça va être quoi dans le mois prochain qu'on va nous servir? Là, on va peut-être vraiment nous dire qu'il y a un problème, il y a effectivement une carence. Il y a justement 2 raffineries au Québec. On a Ultramar à Québec. Et on a celle de Petro-Canada qui est rendue dans les Montréal.
Dites-moi, là, puis je vous le dis, les auditeurs, là, je vais prendre vos appels, je vous en informe tout de suite, là, au 790-9850, Drainville à commercial 985fm.ca ou encore par texto 98985. Quand on aura terminé l'entrevue avec Jean-Philippe, je vais vous demander, est-ce que cette augmentation des prix à la pompe, d'abord, vous la sentez venir, hein? Est-ce qu'elle va changer vos habitudes? Est-ce que vous êtes déjà en train d'y penser? Est-ce que certains d'entre vous pourriez décider que c'est le bon moment, par exemple, de passer au véhicule électrique? Est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Moi, j'ai le goût de vous poser la question, Jean-Philippe.
Oui.
Justement, qu'est-ce qu'on peut anticiper comme changement de comportement, de changement d'habitude chez les consommateurs avec un prix à la pompe qui pourrait monter jusqu'à 2 $ le litre? Et Dieu sait combien de temps il pourrait se maintenir là une fois qu'il est arrivé là.
Oui, historiquement, au moins, l'histoire nous rappelle que les prix de 100 $ et plus le baril là, ne tiennent pas longtemps. Je pense qu'on peut parler de 5 ans durant lesquels on a eu des prix au niveau des 100 $ le baril. Donc, c'est des pointes, c'est des prix de pointe qu'on atteint. Et malheureusement, dès que ça descend, les gens oublient facilement et on retourne. Là, ça faisait quand même 3 ans là, que les prix sont tombés sous la barre des 100 $ depuis 2014. Et il se vend jamais autant de véhicules de sport utilitaires qui s'en vend présentement au Québec. Je pense qu'on est la province qui consomme le plus, qui achetons le plus de véhicules qui sont énergivores consommateurs de pétrole. Donc, on oublie rapidement dès que les prix deviennent le moindrement acceptable. Parce que les réductions de prix d'essence, là, c'est l'effet d'une baisse d'impôt. Quand tu travailles sur la route, tu en mets de l'essence à chaque semaine. On parle d'un 40-50 $ que tu peux économiser pour les gros utilisateurs. C'est une baisse d'impôt. Mais quand ça remonte, c'est comme d'être taxé davantage et tu dois composer avec ton véhicule là, qui bouffe de l'essence comme ça.
Puis t'as pas le choix.
Non.
Mais t'as pas le choix, à moins de décider de changer de mode de véhicule. Mais là, écoute, le véhicule électrique, c'est vrai qu'il est de plus en plus abordable, mais son autonomie est encore un peu problématique. Là. T'sais, quand tu travailles sur la route...
Ouais. T'sais, il faut aimer le Saint-Hubert.
Ah oui, ben voilà, c'est ça. Il faut que tu aimes le Saint-Hubert, t'arrêter pour recharger ta batterie.
C'est,
hein?
c'est pas encore, écoute, on est en installation d'infrastructures, c'est un marché qui va se développer, c'est sûr, l'avenir est là, tout le monde le sait. Mais présentement, la transition n'est pas encore évidente et c'est ce qui pose un frein, mais il ne faut pas aller dans l'autre extrême. Les Québécois, on a tendance, nous autres, à acheter des gros véhicules énergivores, comme nos voisins américains le font. Il paraît qu'au Québec, on est la pire province au Canada, surprenamment. Là. Si on regarde en Colombie-Britannique, où les gens sont plus écolos, là-bas, il y a beaucoup plus de petites voitures qu'au Québec.
On est paradoxaux, parce que je pense que ça se dit en français, ça.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est la province qui compte le plus de véhicules électriques dans le Canada. Ça, c'est un fait.
Oui.
C'est genre 35 % de tous les véhicules électriques au Canada sont au Québec, alors qu'on représente 23 % de la population. Et nous dites-vous, on est aussi la province qui, per capita, présumément, compte le plus de gros consommateurs d'essence.
Moindrement qu'on va en région, puis je comprends, moi j'ai beaucoup d'amis qui travaillent et qui habitent en région, ça te prend quand même des voitures là, pour faire toutes sortes de tâches, et c'est là qu'on voit beaucoup
Les gros pick-up.
Les pick-up, oui, ça cherchait le mot. c'est utile, ça a une fonction, mais ça coûte cher.
Jean-Philippe Descaries, chroniqueur économique pour...
Écoutez, moi, c'est une hypothèse. Je me dis qu'on peut s'en aller. Je souhaite pas qu'on se rende à un litre d'essence à 2 $ mais on dirait que tout se met en marche pour qu'on s'en aille là.
Je partage. Ouais. Et c'est pour ça que je souhaitais vous entendre. Et là, on va voir maintenant ce que les auditeurs vont nous dire, comment ils réagissent à ça, puis est-ce que ça va changer leurs habitudes. Mais avant ça, je vous remercie, Jean-Philippe Descaries.
Merci à vous.
Alors, je répète les numéros 790-9850, 98985, Drainville à commercial, 985FM.ca. Vous avez vu ça monter et ça risque de continuer à monter. Comment vous voyez ça? Allez-vous changer des choses dans vos façons de faire dans un instant?
Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PM au réseau Cogeco.
Alors, préparez-vous, là, on va peut-être payer 2 $ le litre d'essence avant longtemps. Beaucoup de réactions. Par exemple, un auditeur qui nous dit « J'habite à 25 minutes de la frontière américaine, ça me revient à 70 cents le litre. » Fait que je ne vais pas m'en priver. Un autre auditeur qui nous écrit à Drainville en commercial, 985FM.ca, il dit « Pour ce qui est du prix de l'essence, il n'y a qu'une arme, c'est le boycott. » Il y a quelqu'un d'autre qui me dit « Écoutez, là, la première réaction, premier changement, ça va être la pédale. » qui va ramollir longtemps avant l'auto électrique. Donc, qu'est-ce que tu veux? Il va conduire moins vite. Il sait qu'en diminuant sa vitesse, il consomme moins. Il va peut-être parcourir un peu moins de kilomètres aussi. On s'en va rejoindre Martin. Bonjour, Martin.
Oui, bonjour. Bon, écoute, moi, ça fait une couple d'années là, que j'en avais plein mon casque de ça. Mais j'étais entre 800 à 1000 kilomètres par semaine. Donc, je me suis acheté un véhicule diesel.
Mm-hmm.
Puis, dans mon garage, j'ai fait installer... j'avais déjà un système de chauffage central au mazout. Fait que moi, je roule au mazout steady. Puis je roule entre 70 et 15 et 80 cents le litre de la chauffage.
OK.
Donc, c'est exactement... C'est identique.
Là. C'est ce que j'allais vous demander, Martin. Est-ce que c'est effectivement... C'est drôle parce que on le sait que le mazout, c'est du diesel. Vous nous confirmez que c'est le même carburant, c'est ce que vous utilisez pour chauffer votre maison, c'est la même chose que vous mettez dans votre camion?
C'est absolument identique. Il y a une affaire de différence, c'est qu'il n'y a pas de colorant dedans. Donc, celui qu'on va payer de la taxe dessus, il sera pas coloré. Celui qui est l'huile à chauffage, en réalité, ils vont mettre un colorant dedans. Si tu fais coller sur le côté de la route, ce qui arrive jamais, à moins de rouler un petit roux, tout ça, puis de te faire arrêter par des gars du transport, tout ça, c'est rien que le colorant différent. Moi, je roule la même affaire. Premièrement, le diesel, on fait plus de mélange au galon, ça c'est clair. Puis, avec le prix que je le paye, ben, c'est certain que c'est pas demain la veille que je vais arrêter ça.
Mais est-ce que c'est un camion? Qui vient vous livrer ça?
C'est carrément le fournisseur de mazout.
Le fournisseur d'huile à chauffage, comme on dit, là?
Oui, oui, le fournisseur d'huile à chauffage. Moi, dans mon garage, là, j'ai un réservoir de 910 litres, là, une grosse tank à l'huile normale pour mon système de chauffage central. Puis là-dessus, moi, je me suis arrangé avec une pompe puis un pistolet. Que moi, je rentre mon camion dans le garage. Je suis juste rentré le pistolet, puis c'est mon huile à chauffage que je mets dans mon camion, puis c'est tout.
OK, c'est intéressant. Merci pour...
Un kit qui a coûté une centaine de piastres. Fait sauver des centaines de piastres qui sont à peu près là par année.
J'allais dire, oui, c'est probablement même des milliers d'épargne que vous faites, Martin. On s'en va rejoindre Mario. Bonjour, Mario.
Bonjour, ça va bien?
Très bien, vous écoute?
Oui, moi, j'ai un pick-up Dodge Ram. Je fais 60 000 kilos par année.
Oui.
Puis moi, j'ai converti mon pick-up au propane.
Hein?
Je paye au propane. OK, comme les trucks. Des fois, on voit des trucks ordures, nous roulons propane.
Oui, 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 oui.
Moi, j'ai converti au propane. Ça me coûte 49 cents du litre quand il est cher. Puis j'ai des places à 29 cents du litre où j'ai un compte. Si tu vas en région, tu vas monter à 60-65 cents du litre. Ça coûte 5 000 convertir de véhicule. Moi, il s'est payé en 6 mois. Il était payé. Fait que moi, quand on parle, le gaz augmente. Je suis pas nerveux pendant tout. Notre truck de livraison, il est converti à ça. Les véhicules de la compagnie sont convertis à ça. Puis c'est de 25 à 40 % moins polluant que l'essence.
Là, Mario, on parle de camion, là, hein?
On parle de camion, mais on peut se faire dans un auto. On peut se faire dans un auto, il y a de la tank est juste plus petite.
Puis on n'a pas de misère. Mettons quelqu'un qui ferait ça, là. Mettons quelqu'un est intéressé. Tu n'as pas de misère à un moment donné à trouver des stations-service pour refaire le plein?
Non, parce que quand tu convertis au propane... Moi, je vais à Repentigny, je vais à Montréal, à 4-5 places, je vais à Trois-Rivières. Mais comme je vous dis, à Trois-Rivières, vu qu'il y a moins de population, bien, le propane, il coûte peut-être 65 cents du litre. Mais quand je vais à Montréal, là, c'est à 30 cents, Repentigny, 40 cents du litre seulement. Puis il n'y a aucune différence dans la conduite. Moi, j'ai une tank de 160 litres dans ma boîte de pick-up qui est fermée. Puis je tank ça, ça me coûte... tantôt, j'ai été, là, 160 litres, ça m'a coûté 78 piastres.
Hey boy, non, c'est bon, ça.
Mais aussi, c'est bon. Parce que c'est pas connu, tout le monde parle de l'électricité, parle du diesel. Bon, j'entends pas parler du propane.
Mais je viens d'avoir le chiffre, Mario, là. J'ai des bonnes recherchistes. Au Québec, on compte environ 12 000 véhicules convertis au propane. Pour un montant variant entre 5 et 6 000 $ des experts s'emparent de votre véhicule et le transforment sa motorisation en y ajoutant un réservoir, des injecteurs, vaporisateurs et un ordinateur pour s'assurer du bon fonctionnement. Vous avez tout ça, vous, là?
J'ai tout ça.
Ben, c'est pas
ça
pire.
Pas, moi, je vais vous dire, compte tenu pour l'environnement, c'est un plus aussi. Puis aussi, si plus il va y avoir de monde au propane, bien, moi, il va y avoir de monde au gaz ordinaire. Et peut-être qu'ils vont peut-être arrêter de jouer avec nous autres comme ça. Parce que si, moi, je travaille dans la construction, puis ils parlent tout le temps de la collision, bien, il y a une collision dans l'essence. C'est incroyable. Puis personne n'en parle.
Mario, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ce mot-là, ces ondes, parce que c'est criminel, ce que vous venez de dire là. Mais vous avez le droit, là. Mais mettons que ça m'empêche pas de le penser. Peux-tu vous poser la question? Le propane, là, avez-vous le droit, mettons, d'aller dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine avec ça?
Oui, tout ça. C'est pas des tanks. Ça fait partie comme la tank qui fait intégrante du véhicule. Donc, moi, si je passe... il n'y a pas de problème, c'est tout régi par le gouvernement, il n'y a aucun problème là-dedans.
Voyez-vous, là, on me dit c'est reconnu par la politique énergétique du Québec comme un carburant alternatif. Le propane permet une réduction de 24 à 30 % des gaz à effet de serre par rapport à l'essence régulière. Tout ce que vous nous dites est confirmé par le gouvernement, Mario, vous êtes fort.
parce qu'on me l'a dit. J'adore ça, je vous dis.
Merci pour l'appel. Merci beaucoup. Mario, on s'en va rejoindre Nicolas. Bonjour, Nicolas.
Bonjour, monsieur. Moi, là, depuis 5 ans, là, j'ai licence, c'était après 1-5 ans, j'étais tanné, je m'achetais un char électrique.
OK.
J'avais un Mercedes diesel que je faisais plus ménage, je recevais l'argent et tout. Là. Ça m'a coûté à peu près 3 000 $ licence par année, et je faisais à peu près 18 000 km par année.
Au diesel.
Donc, mon char électrique, là, ça me coûte de hydro un peu moins de 102 $ par année.
102?
Ménage. 102.
Pour faire le même 18 000?
Même millage. Ça m'écoute, pour aller travailler, là, après 25 cents, aller travailler et amener chez nous par jour. Ça m'écoute à rien. Ça coûte 5 cents le kilo. J'ai deux autos. J'ai un auto pour la fin de semaine, si je veux aller à Boston, whatever, là. Et pour aller travailler, je m'ai acheté un Electric Smart. Le char, il fait après l'été après 160 km. Je fais même pour ça. Je fais en moyenne 50 km, 70 km le max. Même si je vais aller jouer golf avec, quand je finis de travailler.
Je
marquais une chose.
Ouais.
Je marquais une chose, là. Les prix de l'essence, ça va tout en monter. Pourquoi? Le baril descend. Ben, les taxes qu'ils mettent dessus, là, comme il y a nos taxes dessus, oui. Là, oui. Dizaine, là, ça monte. Ça va tout en monter, les taxes. Sur moi, je suis tanné, ça ne me coûte à rien. En cinq ans, mon char va être payé. Ça peut être tout l'argent que j'ai sauvé avec l'essence. Et je peux acheter un autre char, la même chose après 10 ans, là. Et je suis vraiment content avec le taux.
Nicolas, je veux juste être bien sûr que j'ai bien compris le chiffre. Vous m'avez dit Mercedes diesel, ça vous coûtait ça vous coûtait 3 000 $ par année pour faire 18 000 km. Là, avec votre voiture électrique, ça vous coûte 102 $ par année pour le même 18 000 km.
Oui, monsieur. Et j'ai déjà sauvé mon auto électrique. Quand il faisait moins 30.
Merci, Nicolas, pour l'appel. C'est intéressant, hein? On a eu de l'électrique, on a eu du propane, puis on a eu du diesel dans la même tribune. Hein? Tout content, moi, là. OK, on s'arrête et au retour, on va changer de sujet, c'est pas à peu près. On s'en va plutôt du côté de la santé. Ça vient de sortir. Le Québec est le champion de l'épidurale au pays pour les accouchements. C'est ici qu'on en fait le plus des épidurales, l'anesthésie épidurale là, ou la péridurale. Pourquoi est-ce que c'est ici qu'au Québec qui s'en fait le plus? Réponse après la pause.